Bon, bah écoutez, je vous propose de passer, après l'intervention de Christophe, donc à notre première intervention, alors qui va être donnée par Jean-Christophe Boudet, qui va se présenter lui-même, hein, et qui est consacré à la revue à suivre, sachant qu'effectivement, c'est une revue qui a fait place à des auteurs qui s'affirmaient lecteurs de bande dessinée, ce dont Jean-Christophe va nous parler.
Donc, bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Boudet, je suis le co-créateur de, du9.org, qui est un site qui existe depuis 1997, date de disparition d'à suivre. donc là, vous avez la page d'accueil de du9 de cette semaine. Alors, j'ai intitulé cette intervention « À suivre, revue des lecteurs », parce que c'est avec l'idée qu'on prend la lecture au sens large, à la fois comme récit, mais aussi comme prise de connaissance, comme déchiffrement, comme action de lire. Et en fait, à suivre, serait posé la question avec quel moyen cette lecture. Et ce moyen, ce serait la bande dessinée, le 9e art ou la 9e chose, comme on dit sur du9.org. Alors, j'ai divisé cette intervention en trois parties. La première, pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce que à suivre. C'est une revue qui a disparu à 16 ans, donc ça commence à faire un bout de temps. Ensuite, c'est par quel lecteur. Donc, plutôt l'idée d'un lecteur émetteur. Et puis, pour quel lecteur, avec l'idée de lecteur récepteur. Et on verra que dans cette partie, il y a aussi un sondage sur 5000 personnes. Alors, la première partie. Donc, voici la revue à suivre. C'est une revue dont le premier numéro est apparu en février 78 et dont le dernier numéro, le 239e, était en décembre 97, soit presque 20 ans après sa sortie. Ce qui est intéressant avec ce dernier numéro, c'est que c'est un numéro à la fois hommage, mais c'est un espèce d'énorme index qui répertorie tous les numéros de la revue, donc 239 numéros plus 6 hors série. Là, vous avez du 1 au 85. Là, vous avez du 86 au 166. Et puis enfin, la dernière planche qui va du 167 au 239 avec les 6 numéros hors série en bas. Je vous montrerai un peu mieux. Donc, là aussi, ça pose question. Pourquoi cet index pour cette revue? Pourquoi cette envie de faire un index sur 239 numéros, de présenter la revue comme un énorme livre ou un énorme catalogue? Là aussi, c'est une question qu'on peut se poser, qui n'est pas non plus liée à suivre. C'est une question, en fait, c'est un problème qui est apparu dès 85, par exemple. Si je prends le collectionnaire de bandes dessinées qui est de mars 85, eh bien, dans le collectionnaire de bande dessinée, il y avait aussi l'idée de faire un index de tout ce qui était paru dans À suivre entre 78 et 85. Ils ont fait tout un panorama sur cette revue. Et, enfin, à ma connaissance, pour le collectionneur de bande dessinée, c'est la seule revue mensuelle, disons, contemporaine, à laquelle ils ont consacré un numéro. Ils n'ont pas fait ça pour Metal, ils n'ont pas fait ça pour Charlie, ils ont fait ça pour À suivre. Ce que je note aussi sur ce numéro du collectionnaire de bande dessinée, c'est qu'ils ont repris l'habillage d'À suivre, celui qui était emblématique, celui qui est dessiné par Étienne Robial, qui a créé Futuropolis en 72 et qui est devenu le designer que l'on connaît. Je vais vous montrer. Donc voilà à peu près cet habillage. Il a duré jusqu'au numéro 108 en janvier 97. Vous avez en 77, il y a eu 3 numéros 0. Et c'est en 78 qu'est sorti le premier numéro avec ce fameux habillage. Donc ça va durer jusqu'en janvier 97. Janvier 97, ça marque un petit peu la déchéance de la revue. C'est la déchéance aussi des autres revues. Hein, c'est à peu près la même période que ferme Metal Hurlant et que ferme Pilote. Et il va y avoir, à la suite, il va y avoir 5 habillages différents. Un en février 87, un autre en février 89 avec un changement de rédactionnel, et puis après, en mars 91, un troisième, un quatrième en février 95, et enfin le dernier qui est un peu le halali, et puis avec une couverture assez racoleuse puisqu'il y a Sex and Fun, qui est en juillet 96. Alors, cette fin d'à-suivre peut s'expliquer à la fois par le changement du marché de la bande dessinée. On passe d'un marché de presse à un marché d'albums. Elle peut aussi s'expliquer par l'émergence au sein de Casterman. Donc j'ai oublié de préciser que à suivre c'est Casterman qui l'a lancé, donc c'est l'éditeur de Tintin. Je vais revenir un peu dessus après ça. Casterman lance la revue autour du personnage de Corto, qui était le personnage emblématique de à suivre. Donc à partir de 85, à suivre perd aussi son personnage emblématique Corto Maltese, perd aussi un des auteurs qui commence à avoir beaucoup de succès pour d'autres raisons, c'est Manara par exemple, qui commence à avoir un énorme succès à cause du déclic. Donc Manara qui était dans à suivre avec Giuseppe Bergman et dont à suivre a quand même fait la popularité, se retrouve aussi privé de Manara. Corto est plus ou moins trimestriel. Il n'y a eu que 21 numéros, c'était un échec. À suivre, survivra Corto. Ensuite, vous avez les numéros hors série, il y en a eu 6. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont faits autour d'événements. Ce n'est pas des numéros spéciaux comme les numéros hors série de métal ou de pilote, où on fait spécial science-fiction, spécial policier noir, spécial rock, etc. Là, c'est autour d'un événement, la mort de John Lennon, la mort d'Hergé, par exemple. C'est autour d'un. Il y a aussi l'idée de lecture, de regard, par exemple, un numéro spécial autour de Moebius, qui est un regard sur la bande dessinée. C'est un des premiers, un premier hors-série où il y a, par exemple, des mangas. On est en 91. Il y a Mario, par exemple, qu'on trouve dans ces pages-là. Et puis un regard sur l'architecture et sur la musique, sur lesquels je reviendrai aussi. L'idée du polar aussi, c'est dans l'idée du polar à la manchette, quoi. Roman noir égale roman social. Donc c'est un autre point de vue, c'est pas du tout pour les ambiances comme dans les autres numéros spéciaux qu'on peut avoir chez Pilote, par exemple. Donc c'est Casterman qui lance cette revue. Donc Casterman, c'est l'éditeur de Tintin, c'est un très gros éditeur à l'époque. Un des plus gros, mais c'est le seul qui n'a pas de revue. Il y a Pilote, c'est Dargo, Dupuis, c'est Spirou, Tintin, c'est Lombard. Donc on pourrait faire toute la liste comme ça. Casterman n'a pas de revue. Et donc il cherche à en créer une. Il s'intéresse au marché de la bande dessinée adulte. C'est un marché qui a émergé il y a 10 ans, donc... À suivre arrive 10 ans après, c'est la dernière grande revue à être créée, c'est un peu celle qui ramasse la mise, si vous préférez. Et ce marché en fait, a été créé en 69 avec l'émergence de Charlie, qui est un mensuel, donc on n'est plus du tout dans l'hebdomadaire. Pilote était un hebdomadaire, Spirou était un hebdomadaire, etc. On est dans quelque chose d'autre, et surtout on est dans une revue pour adultes, clairement. Charlie s'inspire de Linus, et en même temps ils prennent pour emblème Charlie Brown, les Peanuts. Donc c'est une bande dessinée qui est prise pour emblème, je ne sais pas si de façon plus ou moins consciente, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une bande dessinée où on voit des enfants parler comme des adultes, et on va faire un magazine où on utilise un langage qui est censé être pour les enfants pour parler de choses adultes. Donc vous voyez que c'est assez logique en fait de prendre ce personnage de Charlie. Quelque part, il y a vraiment une revendication. Charlie, c'est aussi une revue qui est à la fois sur la bande dessinée contemporaine, mais aussi sur la bande dessinée patrimoniale. En général, la bande dessinée de l'âge d'or, celle de l'enfance des créateurs de la revue, donc des gens qui ont entre 30 et 40 ans, donc tous ceux qui ont lu des bandes dessinées à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Charlie va développer un rédactionnel qui sera de très bonne qualité. Ça aussi, Casterman va le repérer. C'est là aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Charlie fait des couvertures qui sont finalement, que je dirais, très plastiques, qui sont un peu dans la lignée du pop art ou de la figuration narrative. Et si on avait le temps, si on faisait une analyse des couvertures, je pense qu'on pourrait comparer. À suivre, ce ne sera pas du tout dans cette démarche. Ce sera plutôt dans une démarche de citations, de choses comme ça. Ça reste à étayer, à analyser plus profondément. Mais là aussi, il y a un décalage entre les deux revues. Charlie, c'est aussi la mise en avant des auteurs. Hein. Donc, et ces auteurs vont entrer en dissidence en fait, et vont créer d'autres mensuels Donc il rentre en dissidence par rapport à Pilote, l'hebdomadaire Pilote, et par rapport à Goscinny. Les premiers dissidents, c'est Gottlieb Obrétéché-Mandrika qui crée l'Écho des savanes en 72. Donc c'est un titre qui a beaucoup d'importance pour nous, mais qui était tiré à 1000 exemplaires, hein, pas plus. Ensuite, il y a Métal Hurlant qui est créé en janvier 1974, qui lui va avoir un impact beaucoup plus important, puisqu'il va y avoir une version américaine. Et puis, il y a Dissidence, dans la Dissidence, c'est la création de Fuite Glaciale par Gottlieb en 1975. Ces journaux ont un énorme impact, en tout cas symbolique, et ça oblige même Pilote à passer mensuel. Et à refaire entièrement sa numérotation. On recommence, Pilote qui a été créé en 59, repasse à une numérotation à 1 et devient mensuel en 74. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le slogan de Pilote, c'est le journal pavé de bonnes rubriques. Donc il reprend le slogan phare de 68, sous les pavés la plage, sauf que là vous avez sur les pavés l'image. Alors Pilote a clairement compris ce qui était un Pilote, c'est un journal qui a grandi avec ce lectorat, ce qui est différent par rapport à Tintin ou à Spirou. Ils avaient 10 ans en 59, ils ont eu 20 ans en 69. Et il s'est adapté, c'est un journal qui s'est adapté à son lectorat. Sauf qu'il n'a pas été plus loin et qu'il a eu du mal. Et c'est un peu une réponse de la part de Pilote, une réponse en fonction de ce qui s'était fait par rapport aux autres mensuels. Mais en même temps, c'est un journal qui fait le grand écart. On le voit dans son logo, par exemple. Vous avez Astérix. C'est un journal qui est encore dans la prépublication, dans des mécanismes qui sont liés au Pilote de 59. Donc c'est un peu pour ça aussi que Pilote périclite par rapport à ses lecteurs. Donc à suivre un peu, comme je disais, Ramassé arrive après toutes ces expériences, après ces 10 ans d'expérience. Et c'est un mécanisme en fait qu'on a retrouvé 20 ans plus tard, quand par exemple, je l'avais signalé dans Du Neuf, quand les associés créent à la fin des années 80 l'association et puis qu'il y a tout ce mouvement d'indé qui se met en place, et que au début des années 2000, il y a des structures comme Futuropolis ou Gallimard BD qui émergent et qui récupèrent un peu tous ces auteurs qui ont, eh bien c'est un peu ce qui s'est passé à l'époque si on devait faire un parallèle. Alors, par quel lecteur? Donc, le lecteur archétypal, je dirais, c'est Jean-Paul Mougin, qui a été embauché comme rédacteur en chef à partir de 1977. Il a été embauché par Didier Plateau et Louis Gérard, qui avaient dans l'idée de mettre en place un secteur BD important à Casterman. Le secteur BD de Casterman ne se limitait pas qu'à Tintin. Il y avait les 4As, il y avait des Alix, il y avait des Lefranc. Il y avait aussi des tentatives de viser le marché plus adultes, ils ont sorti le premier Corto Maltese en 73, il a eu un prix à Angoulême quasiment quelques mois après. Il y a aussi Tardy qui publie Adèle Blanc-Sec chez Casterman. Et donc ils ont dans l'idée de faire une revue, ça traîne depuis 73-74, et ça va se mettre en place qu'en 78. Mougin vient de la télévision, c'est un journaliste de télé à la base. Il a fait partie des charrettes après 68, je suppose parce qu'il était trop agité. Et puis après, il est passé par PIF, où il a rencontré Pratt. C'est le premier à publier Pratt en France, en fait, via PIF. Il a travaillé, on le sait un peu moins, à Détective aussi. Il y aura d'ailleurs un hommage à Détective à suivre dans un des numéros. Et donc il arrive en 77 engagé par Didier Plateau et puis aussi grâce à l'aide de Pratt qui lui renvoie la balle et qui le fait rentrer pour la rédaction d'À suivre. Alors les photos sont extraites de ce livre de Nicolas Finet qui est sorti en 2007 pour fêter ou en 2008 je ne sais plus, pour fêter les 20 ans ou les 30 ans de À suivre. Sur la deuxième photo, vous voyez Anne Porot, qui est secrétaire de rédaction, et Bernard Ciccolini, qui fait la maquette, en fait. Dans ce même numéro, vous voyez dans ce numéro, il y a le livre de Finet est un peu condescendant, et des fois, il manque de documents, il faut bien dire, mais il y a quand même des entretiens et il y a des hommages. Par exemple, là, vous avez un hommage de Loustal à Mougin. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est Mougin, c'est un lecteur. C'est le primo lecteur. C'est vraiment le métier d'éditeur. Il fait une lecture des planches et il y a beaucoup d'anecdotes qui se tournent autour de ça. Et il y a des générations d'auteurs de bande dessinée qui vont aller voir Mougin pour qu'on parle de, pour savoir si c'est lisible, si c'est publiable. Donc c'est vraiment un lecteur. Même s'il a loupé le train avec Trondheim, Menu, tous les auteurs des années 90, ils ont quand même publié David B., un des associés. Ça se sait moins parce que vers la fin, les bandes dessinées étaient publiées un peu n'importe comment. Mais ils ont quand même publié un associé. Et David B., qui est un lecteur, il suffit de dire ses bandes dessinées pour voir que c'est quelqu'un de très attiré par le livre. Alors, dans ce numéro 1 d'à suivre, là, vous avez le sommaire. Et dans ce sommaire, il y a un édito qui est un peu resté, qui revient régulièrement dans toutes les histoires de la bande dessinée, avec notamment, donc voici l'édito, avec notamment cette phrase, avec toute sa densité romanesque, à suivre sera l'irruption sauvage de la bande dessinée dans la littérature. Donc c'est clairement affiché, on est une irruption sauvage dans la littérature. On est des lecteurs de livres, on veut faire des livres. À suivre n'est pas un magazine pour adultes, avec un clin d'œil grivois qui s'attache à cette expression. À suivre est simplement une revue adulte. On n'est pas non plus dans une revue pour enfants ou pour jeunes attardés, si vous préférez. Enfin, pour faire, on ne fait pas dans le rock, on ne fait pas dans la SF. On fait une bande dessinée une revue qui parle de bande dessinée, qui s'interroge sur le monde, si vous préférez. Dans le sommaire numéro 2, il y a encore un édito qui accentue cette idée. Donc, on insiste sur le fait que la bande dessinée est un moyen d'expression majeur, un moyen d'expression adulte, un moyen pour les majeurs, un moyen de lire le monde, si vous préférez. C'est un instrument pour s'exprimer, donc il y a aussi l'idée d'auteur derrière, liberté d'auteur. On insiste sur que je sache, le lecteur de bande dessinée n'est ni un grand demeuré, ni un analphabète. Et enfin, la bande dessinée ne détient pas toutes les clés. Elle ne peut à sa manière qu'apporter des éléments de réponse aux questions de notre temps. Donc c'est clairement une lecture de l'époque aussi. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur, quand on parle de polar, c'est pas pour les ambiances, c'est en liaison avec Manchette, c'est du polar social, si vous préférez. Cette inscription dans l'idée de lecture, de littérature, se voit aussi à travers le sommaire. D'abord, vous avez deux rubriques qui vont durer pendant 2 ans à peu près. Il y en a une qui s'appelle « Les livres 2 » et une autre qui s'appelle « Les bandes dessinées 2 ». Les livres 2, en général, c'est une question posée à c'est sous forme d'interview à chaque fois. C'est une question posée à un dessinateur de bande dessinée. Donc le dessinateur de bande dessinée lit des livres. C'est pas qu'un lecteur de bande dessinée. Et les bandes dessinées 2 sont adressées en général à des écrivains ou à des artistes. Donc il n'y a pas que les auteurs de que les il y a dans les écrivains, il y a des lecteurs de bande dessinée aussi. Là, vous avez par exemple les deux pages qui ont été publiées dans le numéro 2. Donc là, il y a Mandrika qui parle de ses livres, et puis il y a le Goncourt de l'époque qui parle de ses bandes dessinées. C'est une rubrique intéressante parce que quand on va dans le numéro 5, ils vont interviewer le groupe Bazooka, et en particulier Kiki Picasso. Et Picasso va dire cette phrase qu'ils vont mettre en sous-titre, hein, tellement ça les impressionne, eux qui sont des lecteurs. « Je n'ai pas ouvert un bouquin depuis 3 ans. » Pour la rédaction de « À suivre » qui sont des lecteurs, c'est quelque chose d'inconcevable, ne pas ouvrir un livre pendant 3 ans. Donc c'était publié dans le numéro 5 de juin 1978 avec une couverture de Chantal Montelier. En tout, va y avoir sur à peu près 22 numéros, va y avoir plusieurs... Là, j'ai fait la liste de la rubrique « Les bandes dessinées 2 ». Donc, vous avez Karadec, Decoing, Lascaux, Gilbert Lascaux, Bizot, Frappa. Vous avez aussi Cher Julie Bizot, qui sont... C'était respectivement Actuel et Libération. Jean-Christophe Averti, Alain René, Jérôme Savary, Jean-Pierre Manchette. Burroughs aussi, oui. Toujours dans le sommaire du numéro 1, On peut noter aussi qu'il y a des nouvelles dans À Suivre. Pendant, jusqu'en 82, il va y avoir des nouvelles qui vont être publiées. Donc vous avez deux contes de Pierre-Jacques Elias. C'est un liaison toujours avec ce qui se passe dans la revue. Là, c'était la publication de Bran Rouse, qui était qui avait été publiée à la fois en breton et en français à l'époque. Et puis vous avez une nouvelle de Eugène Sue, avec cette qui suit l'idée que le roman, que la bande dessinée, pardon, est moins perçue comme un fait plastique, là encore, que comme un fait narratif. C'est-à-dire que François Rivière fait un article où il explique que l'ancêtre de la bande dessinée, c'est pas forcément la tapisserie de Bayeux ou tout ce qu'on vous cite comme image, les vitraux, etc. Là, ce serait plutôt le roman feuilleton, le roman populaire. Vous avez un peu vous avez la liste des nouvelles publiées dans À Suivre entre 78 et 82. Donc il y a à la fois du patrimoine, hein, pour essayer d'ancrer la bande dessinée dans ce fameux roman feuilleton dont on essaie de faire remonter, dont on perçoit qu'il serait à l'origine de la bande dessinée. Et puis des auteurs plus contemporains, toujours souvent liés au polar social. Hein. Il y a Signac, des choses comme on peut trouver aussi Maurice Roche, et on trouve les grands, Gaston Leroux, Jeuneau, Féval, Eugène Sue, etc. Donc là aussi, ça mériterait d'être analysé beaucoup plus finement, mais il y a aussi Jean Vautrin, par exemple, même Jean-Pierre Chabrol, Frédéric Dard. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans cet édito du numéro 1 À Suivre, on trouve aussi des mots marqueurs qui sont très liés au livre, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la bande dessinée. Si je prends par exemple tous ces mots, livre, chapitre, roman. Donc le roman de Jeanne d'Arc, c'est une bande dessinée. Cabane et Forest adapte le roman de Renard en bande dessinée. François Rivière parle du roman populaire. On divise en chapitres Tardy, Forest ici même, et puis Corto Maltese. Ça peut paraître aussi artificiel, cette division en chapitres, mais ça réfléchit aussi sur une nouvelle temporalité. Quand on est dans un hebdomadaire, c'est facile de publier 3 pages et puis de le reprendre une semaine plus tard. Dans un mensuel, il y a une autre temporalité et c'est plus dur à gérer. En fait, on voit que Charlie, par exemple, ou toutes les revues d'avant, privilégier le récit court par rapport au récit à long terme. Et en fait, cette division en chapitres, c'est un moyen astucieux de rappeler aux gens ou de leur permettre de suivre une bande dessinée en ayant un petit peu oublié sur le mois qui est venu ou sur plusieurs mois qui sont passés. Donc c'est, en soi, c'est à la fois ça rattache à l'idée de roman, etc. Mais en même temps, ça gère une nouvelle temporalité pour les lecteurs à l'époque. Et enfin, vous avez aussi Avoine qui fait des séries de gags et qui utilise, qui fait ça autour de l'encrier. Et en fait, qui un peu utilise avant l'heure cette phrase de Pratt. Pratt disait qu'il écrivait ses dessins et qu'il dessinait ses textes. Eh bien, Avoine joue un peu sur cet aspect de l'encre qui est à la fois celui du dessinateur et de l'écrivain. Enfin, sur ce numéro À Suivre, on voit, comme dans des revues d'art ou dans des revues littéraires, toute une actualité liée au livre qui est en général à la fin de la revue. Et À Suivre fait la même chose, fait une actualité du livre à la fin de chacun de ces numéros. Et c'est quelque chose qui va persister jusqu'à la fin, jusqu'au numéro 238. Et donc voici quelques pages de la première sélection d'À Suivre. Au début, ça s'appelle l'actualité À Suivre. Ensuite, ça s'appellera livre À Suivre. Là, vous avez, au début, ils font un classement par thème, essais, cinéma, etc. Et ils mettent au même niveau la bande dessinée, les romans, les essais, tout ça. Pour eux, c'est la même chose. Ils ne font pas de distinction. Donc voilà, par exemple, pour cinéma... ils s'intéressent aux sciences humaines. C'est vraiment, c'est pas que des lecteurs de romans. Ils sont pas limités dans le genre. Ils sont vraiment d'une grande curiosité de lecture. Alors si je prends par exemple le numéro 150 de juillet 80, donc bien après juillet 90, pardon, on peut voir que la section livre est toujours à la fin. Donc là, En fait, vous voyez AS Comics parce que c'est un supplément, c'est le supplément que l'on voit sur la couverture. Mais elle se trouve vraiment dans les 5 dernières pages à chaque fois du numéro. Après, il peut y avoir des variations. Par exemple, au début, on ne parlait pas du tout de musique. Petit à petit, on va en parler. On va aussi parler du cinéma. Et même dans la deuxième moitié des années 90, on va faire une sélection de CD-ROM. Et ce qu'on note aussi, c'est que 150 numéros plus tard, on est toujours intéressé par la littérature, puisqu'il y a dans ce sommaire un reportage sur les traces, où on essaie de suivre les traces de Michel Léris, de son livre « L'Afrique fantôme ». Dans le numéro 195, pareil, on trouve toujours les livres à suivre dans les dernières pages, avec encore là ces... Donc là, j'étais dans le numéro. Ouais. Et si je prends l'avant-dernier numéro, le 238, donc là, on a les livres et les romans. En fait, dans les dernières pages, là, on distingue les genres, par contre. On met polar, SF, cinéma, musique. Mais aussi, c'est quand même une des rares revues de cette époque mensuelle de parler de littérature. Dans les autres, c'est toujours lié à un genre. Ou à du copinage, parfois. Quand tout à l'heure je vous ai montré les livres d'eux, même s'ils arrêtent au bout de 2 ans, ça reste une constante dans l'esprit de la revue. Par exemple, en avril 85, vous avez cette rubrique qui s'appelle Indiscrétion et qui demande aux dessinateurs de faire la couverture du livre qu'ils ont le plus apprécié. Donc on voit que c'est la littérature qui ne se limite pas, qui vraiment, il y a des goûts littéraires très éclectiques, très pointus parfois. Et on trouve cette fameuse couverture du Voyage au bout de la nuit de Céline, sur laquelle je vais revenir, donc par Tardy. On voit aussi que Fred a sélectionné le catalogue Manu France. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette revue, il y a beaucoup d'adaptations de bandes dessinées, de romans en bande dessinée. Donc le plus connu, c'est Léo Mallet. Mais vous avez aussi Kosri qui a adapté Golo qui a adapté Kosri, c'est-à-dire Mendiant et Orgueilleux. Et puis d'autres moins connus, par exemple les frères Varenne qui ont adapté le roman de Fritz Zorn, Mars, qui est un très bon roman qui a marqué toute une génération et qui est adapté en bande dessinée sur 2 numéros. Donc ils n'ont pas fait de couverture, mais vous pouvez le voir ici par exemple. Et à chaque fois, ça permet à la revue de faire un article très poussé sur Fritz Zorn par exemple. Mougin aussi, en grand lecteur, essaie de faire se rencontrer, pas que sur le papier, enfin pas que dans la revue, des romanciers et des dessinateurs. Donc la rencontre la plus connue à suivre, c'est Charine et Bouc, hein, qui vont faire plusieurs bandes dessinées ensemble. Hein. Et je reviens sur la page Voyage au bout de la nuit, puisque là on voit le lecteur Tardy, qui commence à avoir du succès avec Léo Mallet, qui parle de son voyage, du voyage au bout de la nuit, et qui laisse entendre qu'il aimerait bien le faire. Et en fait, ce dessin va être repéré par Gallimard. Hein, et en fait, ce goût pour Céline va faire que Tardy va illustrer tous les bouquins de Céline en folio. Et puis bien sûr, ça va donner ce voyage illustré par Tardy, publié en conjointement avec Gallimard. C'est à cette époque aussi qu'on parle de Casterman comme le Gallimard de la bande dessinée. Là, vous avez vraiment tout, avec ce livre, vous avez tout un nœud qui s'agrège. Hein. Vous avez à la fois Robial avec Futuropolis, qui lui aussi, je peux qualifier de lecteur, donc qui entoure, on peut dire que Mougin est entouré de lecteurs, pas que de dessinateurs lecteurs, mais aussi d'autres lecteurs. Si je prends par exemple cette photo, ça c'est une photo typique, voir un auteur ou un éditeur derrière une bibliothèque, c'est quelque chose qui est à la fois emblématique, qui montre comment en fait la bande dessinée c'est des livres, maintenant c'est plus forcément de la presse, c'est plus un média de masse forcément, enfin on le perçoit autrement. Étienne Robial, j'ai mis à côté Popeye qui est l'espèce de pléiade pour la bande dessinée, et puis Jos Fart qui est un peu enfin l'avant-garde de l'époque. Il y a aussi Pratt, hein, qui est célèbre pour avoir une bibliothèque de 30 000 livres, donc gros lecteur. Et puis sinon, il y a aussi cette image de la bande dessinée ici même, donc Arthur même, qu'on a vu sur le premier numéro et sur le dernier numéro, donc quel personnage emblématique d'à suivre. Et cette vague de livres, en fait, c'est une image qui a beaucoup marqué dans les années 80 et que Attardi va utiliser dans d'autres registres. Par exemple, pour faire les joints à la... pour lier certaines histoires qu'il a mis à droite et à gauche dans certaines de ses bandes dessinées, mais aussi pour faire la publicité du Salon du Livre qui se tenait à l'époque au Grand Palais, par exemple, ou alors pour une publicité pour le Robert ou pour Raymond DeVos, je ne sais plus, et puis aussi pour des libraires dont certaines publicités ont été publiées dans la suivre. Donc ouais, ce registre sur le livre qui est vraiment très prégnant pour à suivre. On voit que c'est une revue de lecteurs émetteurs, si je puis dire. Alors pour quel lecteur? Pour quel lecteur? Ben peut-être pour ce lecteur là, ce monsieur qui a des lunettes, qui est plutôt un intello, qui est assez jeune, qui a une casquette ou une petite guêpette de prolétaire, enfin qui se la joue un petit peu comme ça. Et donc ça, c'est un. Il tient en main le à suivre de mars 79. Et en fait, c'est un extrait d'un film. C'est le photogramme d'un film. C'est extrait d'un film de Godard qui s'appelle Sauf qui peut la vie. Sauf qui peut la vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Godard est interviewé dans le numéro 34 de à suivre. Pas du tout à cause du film, hein. C'est pas parce qu'il a fait un clin d'œil à suivre qu'il est interviewé par à suivre. Non, non, c'est juste la rencontre. Godard évoque gentiment qu'il a utilisé à suivre dans son film, justement pour pas tomber dans l'anecdote. Donc il utilise le à suivre vraiment comme un moyen de montrer quelque chose. Et c'est vrai qu'on peut le voir dans la suite du film. Par exemple, là, on a deux hommes qui sont en train de lire une revue de bande dessinée. Donc là, on est avec deux personnages qui sont diamétralement opposés. Ce sont des hommes d'affaires avec un patron exécrable qui domine son cadre et qui lui fait faire n'importe quoi. Ils sont au carrefour de la légalité, hein, parce qu'on ne sait pas s'ils font un commerce légal ou plus ou moins légal. La scène qui suit se passe avec des prostituées. Le langage est très cru, hein, très fort. C'est ça qui est c'est un film intéressant aussi pour ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils lisent un autre numéro d'une revue de l'époque, et c'est le Métal Hurlant, hors série, spécial guerre. Donc, quand Godard utilise quelque chose, c'est vraiment pour montrer en quoi c'est emblématique d'une certaine population. Alors, à suivre, quand ça a été créé, on a souvent parlé de marketing, puisque, par exemple, dans le numéro 9 de octobre 78, ils ont sorti un questionnaire de 30 questions et de 4 pages. Vous voyez que c'est illustré par Cortot, le personnage emblématique d'à suivre, et aussi par des extraits de Ici même, l'autre revue de à suivre, l'autre bande dessinée de à suivre. Donc vous voyez un personnage qui lit des petits Mickey, la fameuse vague de livres dont je vous ai déjà parlé. Il y a des questions qui sont très orientées sur le livre. Combien de livres achetez-vous en moyenne? Au cours des 3 derniers mois, quel genre de livres avez-vous lu? Albums, romans policiers, science-fiction? Parmi les activités suivantes, quelles sont celles que vous pratiquez régulièrement ou assez souvent? Etc. Donc la dernière page. Alors c'est une autre époque aussi, hein. Il n'y a pas de magnétoscope, il n'y a que 3 chaînes à la télé. Le livre, c'est fatalement la première porte sur l'imaginaire. On voit aussi les journaux de l'époque, hein, et c'est intéressant dans la deuxième, parmi ces magazines, laquelle lisez-vous à chaque numéro, ou presque chaque numéro, vous avez quand même 3 magazines qui sont liés à la littérature, le magazine littéraire, les nouvelles littéraires et Lire Magazine. Vous avez aussi donc des questions au cours des derniers mois, quel genre de livre avez-vous lu? Et parmi ces magazines de bande dessinée, lesquels lisez-vous? Donc là, on voit la liste des... Il doit y avoir une petite erreur, parce que Charlie Hebdo, ce n'était pas un magazine de bande dessinée. C'était à Charlie, je pense, auquel il pensait. Et BD, c'était une revue qui a duré 2 ans, qui était un hebdomadaire. C'est le seul à avoir été un hebdomadaire dans ces journaux s'adressant aux adultes. Je ne sais plus si... Hop. Ah oui, donc pour ce qui est de la télé, du cinéma, donc une autre époque. En février 1979, il publie les résultats de ce sondage. Et donc, ce sondage, le voici. En tout, ils ont eu 5000 personnes qui ont répondu à ce sondage. Alors, ce que l'on constate déjà, un peu comme tout à l'heure, hein, finalement, majoritairement des hommes, évidemment, à cette époque-là, ce sont des gens majoritairement entre 20 et 29 ans. Ce sont des gens qui vivent en région parisienne majoritairement aussi. Ils ont fait des études supérieures très majoritairement. Et ce sont des étudiants, principalement. Ensuite viennent les cadres sup ou les profs. Ensuite, les cadres moyens et instituteurs. Et enfin, en dernier, les employés. On voit aussi que ce sont plutôt des gens de gauche, hein, puisqu'ils lisent, ou centre, puisque c'est Libé le matin, et Le Monde. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'ils sont aussi des lecteurs de romans, pas que des romans de genre, pas que de la science-fiction, pas que du policier, qui lisent apparemment plus de science-fiction que de policiers, qui lisent aussi plus d'essais d'analyse que de policiers, mais qui lisent plus de policiers que de documents historiques. Autre question intéressante dans ce sondage, à un moment ils ont demandé « L'actualité littéraire dans la suivre m'intéresse et je la lis ?» et ils répondent 71% oui. Enfin, ce sont des collectionneurs, donc avec 100 albums, on est considéré comme... ils possèdent 59 albums en moyenne. Donc là aussi, il faut se remettre dans son contexte, hein, pour essayer de prendre en compte le contexte. Imaginez qu'au début des années 90, 500 bandes dessinées publiées dans l'année, on parlait déjà de surproduction. Aujourd'hui, 500, c'est ce qui est publié dans le mois. Donc, et c'est un mois calme, évidemment. Et là, vous avez donc toujours qui tourne autour de la lecture. Enfin, vous aimez également la musique. Lire des bandes dessinées représente l'activité principale. Lire des journaux aussi. Ensuite, la musique et ensuite les livres. Comment vous lisez à suivre? Alors là, ce que j'ai noté intéressant, c'est que ce sont des gens qui gardent les journaux. Et c'est vrai qu'à suivre, et ce qui est étonnant de les regarder 30 ans après, voire plus, c'est que les premiers numéros sont impeccables. Ils ne sont pas jaunis. Vous prenez un Charlie qui tombe presque en miettes, et un suivre est incroyablement façonné. Ils n'ont pas jauni. Et donc voilà, il y a cette idée qu'à suivre, c'est aussi une revue d'art, en fait. Et ils ont les mêmes mécanismes que les revues d'art, de fournir des relures, je sais pas, comme Art Press, par exemple, qui fournit des relures, ou comme Beaux-Arts, de fournir des relures pour leurs abonnés. Donc elles sont très bien mises en avant. Alors je ne dis pas, hein, il y a aussi dans les journaux pour enfants, Tintin le faisait, mais là c'est vraiment fait de façon systématique, et même dans des publicités, c'est mis en avant. Par exemple, là vous avez une publicité qui essaie de faire référence toujours à ce personnage d'Arthur même. Donc on a reproduit son intérieur, mais on a mis une bibliothèque. Et là, on voit que les livres de bande dessinée peuvent aller dans une bibliothèque. On parle de romans à suivre, et on est vraiment dans un autre registre. On est vraiment dans un registre de lecture, on n'est pas forcément dans la collection. On est dans le relire, découvrir, voyager. Enfin, c'est vraiment une véritable lecture. Et je mets en dernier cette diapo, donc je déborde beaucoup. Donc l'idée que c'est aussi une revue d'art, ça se peut aussi s'expliquer, par exemple, vous prenez architecture, bande dessinée et rythme and bulle, c'est lié aussi à des manifestations artistiques. Par exemple, le SIV sur l'architecture peut être considéré comme un catalogue d'une exposition qui avait lieu à Angoulême et au Centre National de l'Architecture à l'époque. Et puis rythme and bulle, c'était... aussi lié au printemps de Bourges. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce numéro sur la musique ne parle pas que du rock. On s'intéresse aussi à la musique contemporaine, à la musique classique, des choses comme ça. On brasse vraiment beaucoup large, beaucoup plus large. On a une curiosité qui est beaucoup plus grande. Alors, à suivre, c'est éteint donc en 97. Donc, c'est difficile de dire là exactement pourquoi. Est-ce que c'est un problème de lecteur? Est-ce que c'est parce qu'on est passé dans un marché d'albums? Est-ce que c'est vrai que les revues, toutes ces revues-là étaient considérées comme des revues de pré-publication, quoi. Donc ça paraissait un an avant dans un suivre, et puis ensuite on achetait l'album un an plus tard. Est-ce que Mougin et tous les lecteurs de cette époque n'ont pas su s'ouvrir à d'autres lectures, d'autres lecteurs? Là aussi, c'est des questions auxquelles je ne répondrai pas pour cette courte intervention. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.